en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comment Ernest Renan, le père de la Troisième République, l'auteur de la célèbre « Vie de Jésus », qui par son œuvre de philologue synthétise la pensée savante du XIXe siècle, est-il perçu 150 ans après sa première leçon inaugurale au Collège de France, qui fit scandale? En hommage au grand savant qui divisa les hommes de son temps et dont l'œuvre connut pourtant une formidable fortune, Henri Laurence et Michel Zinc, tous deux titulaires d'une chaire au collège, présentent leur auguste prédécesseur dont la vie, les choix, la pensée et les apports à la science ne lassent pas de passionner et d'interroger. En témoigne le colloque de rentrée du Collège de France qui s'est déroulé le 11 et 12 octobre, durant lequel une vingtaine de chercheurs, parmi lesquels 8 de leurs confrères, ont apporté leurs réflexions sur sa vie, sur laquelle Renan a laissé des écrits. Je pense à votre communication, Michel Zinc, intitulée « Souvenirs d'enfance et de jeunesse, l'éternel séminariste dont nous allons parler », sur l'histoire et l'archéologie, second volet du colloque, avec par exemple la communication de Thomas Romer, Renan et l'exégèse historico-critique de la Bible, sur la philosophie et la religion, le troisième volet. Citons la communication de Claudine Tiercelin, « La raison » selon Renan. Pour terminer, un volet sur la politique et la postérité de Renan, citons l'intervention de Sophie Bache, « La fortune de la prière sur l'Acropole ». Quelques mots pour situer Joseph Ernest Renan, né à Tréguier en 1823 en Bretagne et décédé à Paris en 1892. Agrégé de philosophie, il fait sa thèse sur Averroès et la termine en 1852. Il a alors 29 ans et part pour l'Italie. En 1856, il devient membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui avait accueilli avant lui Champollion et membre de la même académie et membre d'une chaire au Collège de France comme lui. Philosophe de formation, mais philologue avant tout, Ernest Renan fut écrivain et historien à part entière. Il fut surtout au croisement de l'histoire des sciences, de la littérature, de l'histoire politique et de l'histoire des sensibilités, comme l'a rappelé Henri Laurence, pour s'intéresser au pluralisme des civilisations. Il est l'auteur de « L'histoire des origines du christianisme » en 8 volumes, d'une vie de Jésus, de drames philosophiques, mais aussi d'une histoire du peuple d'Israël, d'une très importante correspondance avec sa sœur Henriette et Berthelot, son ami. Et citons parmi ses textes très célèbres « Qu'est-ce qu'une nation ?» et « Prière sur l'Acropole ». Il entre au Collège de France comme professeur d'hébreu en 1862 et en est rapidement exclu. On verra ça sûrement au cours de l'émission. Et il est réintégré en 1870. Il a été membre de l'Académie française au fauteuil 29 et c'est en 1883 qu'il est devenu administrateur du Collège de France et s'est éteint en 1892. Henri Laurence, pouvez-vous nous présenter quelle était l'ambition d'Ernest Renan, de ce savant, quand il commence sa carrière?
Renan représente le cas tout à fait caractéristique d'une interrogation personnelle qui se transforme en problème scientifique. L'histoire essentielle, et d'ailleurs c'est lui qui en a tracé les traits dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, c'est sa crise religieuse qui fait que jeune séminariste, il quitte l'Église. Et immédiatement, son intérêt s'est porté à la façon dont naît une religion, comment se fabrique une religion, comment le phénomène religieux se construit. Et on peut dire qu'en dehors de ses interventions importantes sur la scène publique dans les problèmes contemporains, l'essentiel de son œuvre porte sur cette question de la religion dans un travail progressif, puisqu'en quelque sorte, il construit d'abord les bases philologiques avec son histoire comparée des langues sémitiques, puis il passe à l'archéologie avec sa mission de Phénicie, 1860-61, et à partir de la vie de Jésus, 1863, il devient un historien, et sa grande œuvre qui a été mentionnée tout à l'heure, « Les origines du christianisme, histoire du peuple d'Israël », c'est une des grandes machines historiques comme on les écrivait au XIXe siècle, dont on peut être, je crois, un peu jaloux aujourd'hui.
Votre sentiment à tous les deux, en tant que professeur au Collège de France, devant l'œuvre d'un maître penseur comme ça, c'est vertigineux.
C'est une œuvre vertigineuse par la somme de travail qu'elle représente. C'est quelqu'un qui avait une puissance de travail, d'ailleurs comme toutes ces générations de savants qui vraiment nous étonnent. Et à cet égard, le colloque a rendu pleine justice à Renan, mais a aussi été nécessairement un petit peu injuste, parce que chacun de nos collègues, se plaçant du point de vue de sa discipline, était tenté de montrer que Renan s'était trompé sur tel point, n'était pas allé au bout de telle idée, etc. Mais, bien sûr, la science a avancé depuis, il aurait été le premier à s'en réjouir, il était le premier à le prévoir. Mais quand on voit tout ce qu'il maîtrisait dans des domaines si variés, philologiques, historiques, philosophiques, on est stupéfait.
Henri Laurence, vous avez voulu montrer, je crois, dans cet hommage, justement, comment Renan avait influencé différents savoirs.
Oui, de ce fait même que nous avons mis 8 chaires du collège pour traiter des aspects particuliers de l'œuvre de Renan est aussi une indication que nous ne serions plus capables aujourd'hui de traiter tous ces domaines par une seule personne. C'est aussi la différence que nous avons à un siècle, enfin à 120 ans, de distance.
Est-ce que cette façon d'englober plusieurs disciplines ou d'avoir un horizon très très vaste, est-ce que c'était dû à sa formation ou parce qu'il est parti, comme vous le rappelez, d'une interrogation au XIXe siècle qui s'est posée par rapport à la religion, une question centrale pour les hommes de son temps? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait partir d'une question comme ça, fin du XXe siècle, début du XXIe?
La formation qu'il a reçue et le parcours qu'il a suivi, qu'Henri Laurence rappelait très bien, explique en partie l'étendue de son savoir. Parce que comme il a eu une formation au séminaire, une formation de futur prêtre, il a été formé à la fois en philosophie, dans un certain type de philosophie, mais il avait une base en philosophie et en théologie extrêmement solide. Il avait les connaissances de langues anciennes qu'on inculquait à de futurs prêtres à cette époque. Il avait cet intérêt pour l'hébreu, notamment pour la langue de la Bible, qu'il a développé ensuite, mais qui lui venait d'abord de sa formation de séminariste. Et il a ensuite cultivé tout cela, l'a mis en relation pour construire, je ne dirais pas ce grand système, parce que ce n'est pas un homme systématique, mais ce grand effort pour comprendre, comme le disait encore Henri Laurence, la naissance et le fonctionnement de la pensée religieuse, et pour se comprendre du coup lui-même, parce que, comme le montrent ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, il n'a cessé de revenir sur son propre parcours et d'être, d'une certaine façon, troublé par ce parcours.
Troublé, imprégné, jusqu'à la fin de ses jours,
oui,
quand même.
Oui, jusqu'à la fin, parce que il a rompu avec l'Église, bien sûr, mais en même temps, il a gardé un grand respect, une grande reconnaissance pour ses maîtres qui étaient des prêtres, ou pour certains d'entre eux, ou pour une certaine orientation de l'enseignement qu'il avait reçu. Et la foi qui était la sienne au départ s'est transformée en une sorte de fascination pour le personnage de Jésus et en désir de comprendre réellement ce qu'il avait été en le débarrassant de toutes les strates légendaires qu'il avait recouvertes. Et c'était une sorte de fidélité décalée à l'idéal de sa jeunesse.
En quoi consistait Henri Laurence, sa méthode d'analyse historico-critique ?
Son principe de base, il explique que dès l'avenir de la science, qu'il écrit à 25 ans, mais qui ne sera publié qu'à la veille de sa mort. Pour lui, la philologie, c'est la science de l'esprit humain. Et donc, à partir d'une démarche philologique, il construit, non pas son système, mais en quelque sorte, sa vision du monde. Et alors, en quelque sorte, il part du début même, puisqu'il pose, selon une tradition philosophique qui vient de l'Allemagne, que le langage est une interprétation de l'univers. Donc chaque langue ou chaque groupe de langues définit une appréhension particulière de l'univers. Et très rapidement, enfin tout de suite, il divise en quelque sorte l'histoire de la civilisation humaine en deux grands groupes, le groupe sémitique qui, à cause de l'analyse du monde que représentent les langues sémitiques, va construire en quelque sorte le monothéisme, et donc parler au-delà du monothéisme l'universel, et d'autre part les langues indo-européennes qui, selon lui, constituent l'analyse du pluriel, de la variété, et non pas du principe d'unité du monothéisme, et qui vont produire les sciences. Et le christianisme est en quelque sorte aussi cette rencontre entre l'esprit sémitique et l'esprit indo-européen, puisque nous aurons à la fois la variété des indo-européens et le principe d'universalité porté par les sémites. Mais ce qu'il faut bien comprendre, s'il utilise le terme race, comme tout le 19e siècle l'utilisait, mais en même temps, pour lui, ce sont des idéotypes et non pas des réalités tangibles. Ainsi, dans les groupes sémitiques, il n'y en a en réalité que deux ou trois qui portent réellement le monothéisme, c'est-à-dire les Hébreux et puis plus tard les Arabes, alors que par exemple les Phéniciens ou les Babyloniens ne sont pas des vrais sémites parce qu'ils s'éloignent de l'idéal type, et de même l'idéal type des Indo-Européens vont être représentés par lui, par les Grecs du 5e siècle. C'est lui qui invente la fameuse expression « le miracle grec ».
Michel Zinck, sa formation dans les séminaires lui a donné une connaissance très aiguë des langues antiques également. Comment pourriez-vous nous présenter l'antiquité un peu intime d'Ernest Renan, ou son intimité avec l'antiquité par sa formation,
oui,
par sa jeunesse?
Oui, par sa formation, il n'a pas été intime du miracle grec justement tout de suite, parce que la formation qu'il recevait au séminaire était d'abord essentiellement une formation en latin, une formation destinée à la lecture des auteurs sacrés d'abord, et puis ensuite il a appris le grec. Il a d'abord fait ses études dans sa petite enfance au petit séminaire de Tréguier, là, chez lui. Et puis, il était de famille très pauvre, mais il était orphelin de père. Mais il a obtenu une bourse grâce à sa sœur Henriette pour le séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay, qui n'a pas du tout les connotations aujourd'hui, que venait de fonder Dupanloup, le futur Monseigneur Dupanloup. Et il a été envoyé à Saint-Nicolas du Chardonnay, où d'une certaine façon il a été ébloui, mais où en même temps l'éducation qu'il a reçue était une éducation justement très humaniste, très orientée vers la littérature latine et la littérature grecque, très peu scientifique, et qui pour cette raison lui déplaisait, lui a donné des bases, mais lui déplaisait. Et puis ensuite il est passé au séminaire de Saint-Sulpice, au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, où là il a reçu une formation beaucoup plus scientifique, beaucoup plus strict philologiquement, beaucoup plus strict philosophiquement, qui le satisfaisait bien davantage, à cela près que, comme il le dit, les instruments aigus dont l'avaient doté ses professeurs, il les a retournés contre la foi qu'il lui enseignait. Donc il a fait ses humanités, en somme, mais des humanités très teintées de façon cléricale, si je puis dire. Mais le point important...
Mais qu'il a su mettre à distance.
Oui, il met les amis à distance. Le point important que soulignait Henri Laurence, c'est qu'il met, un peu plus tard, à 25 ans, puis toute sa vie, il met la philologie au cœur de l'aventure intellectuelle. Or, il semble, si on regarde sa correspondance, que, comme pour tout un chacun, les doutes lui soient venus par le biais de la philosophie, plutôt d'une réflexion métaphysique, et que c'est rétrospectivement, par principe intellectuel, en somme, qu'il a affirmé que, dès le départ, c'étaient les considérations philologiques et historiques qui l'ont arrêté et qui lui ont fourni de premières objections contre la vérité du christianisme. Donc, il y a, à ce moment-là, une sorte de cohérence volontaire dans sa démarche et qui est l'application au domaine religieux du positivisme dont il est un représentant, avec des nuances, dire « je ne peux pas croire parce que tout dans l'Évangile n'est pas vrai du début à la fin et qu'il suffit d'un détail faux dans un des Évangiles pour que la religion entière s'écroule », c'est un principe extrême de foi dans la science historique et philologique. Et c'est quelque chose, un principe si extrême, qu'il le sentait menacé de son temps même. Il se défend constamment en répétant « mais certains me disent, c'était pas la peine de jeter le bébé avec l'eau du bain, enfin il ne dit pas en ces termes, il y avait des arrangements possibles » et il doit sans cesse revenir à ce principe intellectuel qui pour lui est fondamental.
Henri Laurens, son œuvre a fait scandale avec la vie de Jésus. Quelles ont été les répercussions de cette hostilité ?
Bah, disons qu'il est tout de suite entré dans l'arène. Hein. Il quitte le séminaire vers 1846 et commence à publier dans la grande presse dès 1849. Il c'est donc à la fois quelqu'un qui fait une carrière de savant et de philologue, qui est aussi quelqu'un qui s'occupe d'inscriptions, de textes,
d'épigraphie, d'archéologie.
Mais en même temps, qui intervient dans les grands débats contemporains, d'abord dans un organe qui s'appelle La Liberté de penser. Ce qui veut tout dire. Et puis ensuite, après le coup d'État de décembre 1851 qui met fin à ce journal, il appartient à la mouvance libérale et il publie régulièrement dans la Revue des Deux Mondes et dans le journal des débats. C'est donc un intellectuel qui est très tôt sur la place publique. Il a quelque part une double carrière, celle d'un savant philologue travaillant sur des inscriptions et de quelqu'un qui intervient dans le domaine public sur les grandes questions de son temps, qu'elles soient historiques, philosophiques, politiques, etc. Ça explique l'affaire de 1863, à mon avis. Parce que d'un côté, il doit faire sa leçon inaugurale pour une chaire dont il a l'intention, qu'il a d'ailleurs respectée plus tard, de ne travailler que sur des textes bibliques qui ne posaient pas de problème à l'Église. Je veux dire, quand il a été professeur au Collège de France dans les années 1870 et 1880, il n'en hésitait pas à envoyer des séminaristes écouter les leçons de Renan sur les textes hébraïques au Collège de France.
Même s'il avait été traité de blasphémateur européen par le pape.
Absolument. Nous avons le témoignage de Loisy, son lointain successeur, qui a été envoyé par ses maîtres suivre le cours de Renan au Collège de France pour la philologie hébraïque. Mais le jour de la leçon inaugurale, il met en quelque sorte les pieds dans le plat. Enfin, il attaque Jésus, cet homme incomparable. Alors, à la fois, c'est une apologie totale de Jésus, mais en même temps, c'est un homme et c'est pas Dieu. Et c'est immédiatement relayé par le journal des débats, le scandale est total, la France est divisée en deux, et ainsi de suite.
C'est un vrai combattant, quand même, Ernest Renan, pour son siècle.
Oui, c'est un combattant, mais c'est un combattant mesuré. C'est un homme essentiellement nuancé, parce que, à la fois d'une intelligence très subtile et d'une science immense, donc ces deux traits invitent à la nuance. C'est un homme, d'après tous ses écrits, un homme courtois, un homme bienveillant, donc un homme qui n'aime ni blesser, ni s'opposer frontalement.
Pourtant, c'est un grand polémiste.
Oui, mais c'est ce qui le rend admirable, d'une certaine façon, c'est qu'il se trouve dans la polémique parce qu'il considère qu'il ne peut pas faire autrement. Il y a des circonstances où il trouve que, voilà, c'est ça qui est vrai ou c'est ça qu'il pense, et pourquoi ne pas le dire ? Et il le dit. Mais ce n'est pas un polémiste de tempérament, ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'affrontement, c'est quelqu'un qui est plutôt ami de la conciliation. Et à telle enseigne qu'il est très bien ressorti, me semble-t-il, des diverses communications de ce colloque, que c'est quelqu'un qui est difficile à saisir parce que sa pensée est très nuancée, parce que selon son interlocuteur, elle peut varier dans son expression, parce qu'il peut avoir des formulations qui semblent à certains moments contradictoires, et parce qu'il est tout sauf simplificateur.
Je crois aussi qu'il a posé le phénomène religieux dès le départ, mais il a assimilé la modernité comme phénomène religieux. Dès 1847, il dit la Révolution française, c'est aussi une affaire religieuse, on parle de la Sainte Révolution, et il a en face de lui, dès 1848, le socialisme, qu'il interprète comme une religion moderne. Et du coup, ce relativisme qu'il a indique chez lui une ironie.
Un doute aussi, c'est ressorti dans le...
Oui, mais l'ironie... Oui.
L'ironie,
oui. L'ironie qui est aussi un trait de, à la fois de caractère et de style. C'est quelqu'un qui peut écrire de façon très amusante et très piquante.
Pourtant, dans le colloque, on n'a pas dit que c'était un voltairien, quand même. Donc, quelle est la différence? Quelle est l'ironie
de... Il n'est pas voltairien. D'abord, d'une certaine façon, il est trop sérieux pour être voltairien. Il prend toujours son objet au sérieux. Et s'agissant de l'Église, il n'a pas du tout l'attitude de Voltaire, parce qu'il respecte son adversaire, parce qu'il cherche à... C'est ce que j'avais essayé de dire, mais enfin, moi, je le connais mal, je me suis peut-être trompé. Il essaye de sauver ce qu'il peut. Même dans la vie de Jésus, il dit que Jésus a mis l'humanité sur la voie du divin. Le divin existe donc, et Jésus met sur la voie du divin. Et il essaye de sauver ce qu'il peut, alors que Voltaire essaye de tout enfoncer. Et Voltaire, d'une certaine façon, a un tempérament beaucoup plus simplificateur, bon, par goût de polémiste. Renan n'a pas du tout ce tempérament. Et lorsque le relativisme, qui consiste à avoir de la religion partout, d'une certaine façon, cela peut être inversé en effort ou en espoir de voir effectivement une sorte de souffle divin animer la marche de l'humanité. C'est une vision presque inverse. Il y a, c'est idiot de dire ça comme ça, mais il y a un côté tailleur de Chardin chez Renan, n'est-ce pas?
Et je crois aussi que cette ironie permet de comprendre combien il a vexé les vrais anticléricaux qui le trouvent toujours trop mou, pas assez dur, pas assez d'attaque. Parce qu'il est toujours réservé. Parce qu'il a l'air de penser, enfin, il ne le dit pas clairement, ou il faudrait revoir, il a écrit des milliers de pages, donc on peut toujours en manquer une, je veux dire, dans son œuvre. Mais on peut penser que pour lui, les libres penseurs, les positivistes purs et durs, ce sont des esprits religieux, de nouveaux inquisiteurs, et il est en réserve par rapport à eux.
On pourrait peut-être aborder aussi ses voyages au Liban, en Palestine. Il a eu le souhait de voir ces lieux saints, aussi d'éprouver ce qu'il écrivait, ce qu'il pensait, ses réflexions. Ça a été un choc, visiblement, pour lui,
oui,
d'y séjourner. Même si
c'est d'abord, l'Orient qu'il visite essentiellement dans les années 1860, n'aime pas l'Orient d'aujourd'hui où vous prenez des avions, vous arrivez dans des aéroports climatisés, etc. C'était quand même des situations nettement plus rudimentaires.
Mais il a l'impression de voir sous ses yeux ce qu'il écrit, en fait.
Pour la Palestine, c'est tout à fait caractéristique. Il dit qu'il n'y a pas de texte, sous-entendu, il n'y a pas d'épigraphie. Mais il y a le paysage. Et le paysage parle autant que le texte. Et c'est sa capacité d'imagination ou d'empathie qui lui permettent d'avoir une démarche historique à côté de la lecture des textes.
C'est là que ressort probablement justement ces années et même sa foi.
Oui, enfin, il est préparé à être ému par les paysages de la Terre Sainte.
Il ne s'en défend pas
d'ailleurs. Et en même temps, c'est un homme d'une grande sensibilité, c'est un styliste, c'est un homme qui a un talent littéraire et donc qui sait tirer parti d'un voyage et du spectacle que lui offre le voyage. À cet égard, nous sommes peut-être déformés par la prière sur l'Acropole, texte qui va être écrit à part et puis qu'il a refourgué, inséré dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, qui a eu un succès prodigieux. Mais la prière sur l'Acropole, donc c'est un texte. Renan sur l'Acropole, donc s'adresse à Athéna, à la Grèce antique, à la raison, etc. Il dit moi, né chez les Cimériens, brumeux, n'est-ce pas, c'est un Celte, il vient de Bretagne, etc. Et il découvre le soleil de la raison de la Grèce, etc. C'est un texte, si l'on veut, admirable, qui a ancré l'idée du miracle grec, et je ne sais quel voyageur ultérieur passant par Athènes écrit « Voilà, je suis allé sur l'Acropole et j'ai emprunté dans la bibliothèque d'école d'Athènes les souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan et ça s'ouvrait tout seul à la lecture, à la prière sur l'Acropole et c'était la seule page que je lisais du passage. » Mais en même temps, je dois dire que pour moi, c'est une des pages les plus faibles de Renan. Et c'est une des pages les plus faibles de Renan parce qu'il a voulu faire du style. Et il a voulu, en somme, se mettre en scène, lui, le Breton, ça. Et il réussit bien quand il écrit ou quand il s'exprime mezzo voce, quand il est sur le mode mineur, quand sa sensibilité se trahit sans s'étaler, quand son ironie se manifeste sans pousser trop loin. C'est quand il est une sorte d'Anatole France plus réservé et plus sérieux. Là, il est parfait. Mais de notre point de vue d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'un tout petit peu ronflant et d'un tout petit peu systématique dans la prière sur l'Acropole qu'on ne trouve pas dans le reste de son œuvre et qu'on ne trouve pas en particulier, me semble-t-il, dans les textes qu'il consacre à la Palestine, à la Terre Sainte, où là, on a l'impression d'un choc moins avoué et plus profond.
Oui, et puis il construit des personnages. C'est quelqu'un qui, d'un côté, est l'auteur, enfin le responsable du grand corpus des inscriptions sémitiques, donc un travail très austère qu'il considéra d'ailleurs comme des grandes œuvres de sa vie.
Et que l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres a relancé la semaine dernière. Il est un peu moribond, il repart.
Et mais de l'autre, il écrit des pages qui peuvent nous paraître aujourd'hui datées du point de vue scientifique sur Néron ou sur Marc Aurèle et qui sont des efforts d'imagination historique où se rapproche de Michelet.
C'est une forme de récit.
C'est du récit.
C'est du récit.
C'est du récit. Du récit qui, parfois, d'après ce qu'on a compris, peuvent être du roman presque historique ou disons que c'est...
Oui, bien sûr. Alors, certainement, John Shite a raison, ça ne correspond pas à ce que nous savons maintenant de la religion romaine et des empereurs romains. Jean-Noël Robert a raison, ses vues sur le bouddhisme sont sommaires. Thomas Römer a raison, sa vue des écrits vétérotestamentaires est datée. Dominique Charpin a raison. Il a longtemps refusé de croire que les Assyriens étaient des sémites, etc. Bon, ils ont tous raison. Voilà. Il n'empêche que... Enfin,
c'était
on a raison
un
aussi. L'histoire évolue. Un jour, peut-être que même Shite, Charpin, Römer paraîtront dépassés. Qui sait ? Je le dis, oresco referens. Mais ce qui importe aussi à l'historien, il y a aussi, je le dis sans relativisme, il y a une vérité en accord avec une époque. Même si les historiens disent plus tard « il s'est trompé sur tel point », il peut avoir eu raison au regard de l'époque pour laquelle et dans laquelle il écrivait. Et à cet égard, on peut dire qu'il avait raison.
Et puis, c'est l'homme de son temps. Je veux dire, il devient, à la fin, disons, les 20 dernières années de sa vie, c'est le grand intellectuel français. Et le seul à qui on le compare dans l'importance sur la scène, c'est Victor Hugo. Et après la mort de Victor Hugo, il est pendant une dizaine d'années le magistère de la pensée française.
Alors, il est, entre guillemets, bien sûr, récupéré par la Troisième République, où ses idées sont en phase avec, à nouveau, l'ère du temps, si on peut dire ça, en résumé. Il finit dans une sorte d'apothéose dont vous venez de parler, Henri Laurence, et il va même être administrateur du collège. Est-ce que c'est un Ernest Renan assagi, apaisé ? Est-ce qu'on le voit dans sa correspondance ou...
Mais il n'est pas apaisé, mais bon, il a d'abord une crise morale qui dure, parce que c'était un admirateur de la pensée allemande. Or, la guerre de 1870, c'est un drame.
Il y a toute la grande controverse entre la France et l'Allemagne, c'est pas intellectuel.
Et puis, l'orientation que prend l'Allemagne le désespère. Il y a des pages très prophétiques.
Sur la guerre.
Sur la guerre que l'Allemagne pourrait porter dans les décennies à venir. Mais surtout, il a été, pendant la grande partie de sa vie, inquiet du danger clérical. Et après tout, le Second Empire l'a bien montré. C'est un libéral. Et la grande surprise, c'est que le peuple est devenu anticlérical et que le peuple devient protecteur des sciences. Il n'y a pas un marché entre lui et la Troisième République. Il y a une coïncidence qui fait que son libéralisme devient celui de la République. Alors, il prend la République avec beaucoup d'ironie d'un côté, mais en même temps, il est très content de tous les honneurs qu'on lui accorde.
Il s'est même lancé en politique.
Il a été membre du tiers parti d'Émile Ollivier. Il s'est présenté aux élections de 1869 pour l'Empire libéral. Il n'était pas encore républicain à l'époque. En revanche, il a pensé un moment être sénateur républicain au moment de la création du Sénat. Mais ça ne s'est pas fait. Mais c'est entre 1869 et 1879, il y a 10 ans, dans lesquels le libéral devient un républicain et le maître à penser des républicains. Et c'est là où, évidemment, qu'est-ce qu'une nation intervient.
Alors, texte fondamental.
Non, mais Henri Laurens en parlera mieux. Simplement, Ernest Renan donc, est devenu républicain.
Et... parce qu'il était opposé au suffrage universel.
Oui, c'est ça. Il s'est aperçu qu'il y avait un mouvement populaire qui soutenait sa pensée. Or, il semble avoir estimé longtemps que sa pensée n'était pas pour le peuple, en somme, mais que ce ne serait jamais une pensée majoritaire. Mmh. Et il s'est longtemps défié du peuple. C'est, à cet égard, il y a eu une évolution politique qui a fini par le fait qu'il a coïncidé avec cette république modérée, lui, qui lui convenait tout à fait, avec une ironie effectivement à l'égard de la République qui, là encore, le rapproche d'Anatole France, qui est un républicain qui peut décrire le préfet Worms Clavelin. Ce n'est pas incompatible.
Il allait jusqu'à écrire des drames philosophiques pour justement peut-être se faire comprendre plus loin.
Je crois que c'était d'abord une explication pour lui-même.
Un jeu littéraire.
Caliban, c'est pour lui, c'est une auto-analyse, en quelque sorte, de sa propre évolution.
Vision.
Mais ce que je pense, c'est qu'il sert aussi la République sur un point essentiel. Le grand problème de la France après 1870, c'est l'Alsace-Lorraine. Il faut des arguments pour défendre l'appartenance française de l'Alsace et de la Lorraine. Or, si on part d'une vision de culture où les gens sont emprisonnés dans leur culture, il est évident que les Alsaciens-Lorrains sont de culture germanique. Or, en édifiant une théorie complète de la nation, fondée sur le consentement, et sur le choix, en ayant cette expression qui est devenue essentielle encore aujourd'hui, la nation c'est un plébiscite de tous les jours, il donne à la République la grande arme intellectuelle, à la fois pour construire la nation française telle que les pères fondateurs de la République veulent la construire, et lui donner aussi des arguments politiques sur le dossier de l'Alsace-Lorraine.
Le point, pour moi qui suis alsacien, est particulièrement important, mais en même temps, cela soutient la définition de la nation, ou la définition de la nation qu'il propose, convient à la République française et en même temps est une mise en garde face à ce qu'est le Deuxième Reich allemand, l'Empire qui s'est fondé après 1870, qui justement réunit des peuples de même langue, mais ne repose pas sur le même type de consensus, comme d'ailleurs, à la même époque, certains auteurs dans les diverses régions de l'Allemagne, et même en Prusse, la grande région victorieuse, l'observe.
Mais en même temps, c'est un pluraliste. Toute sa vie, il a été un défenseur du celtisme, il parlait le breton, et il a fait l'apologie des cultures celtes, il participait aux actions culturelles celtiques en France. Il ne faut pas oublier que la Troisième République commençante avait en fait un immense respect pour les cultures régionales, et que le régionalisme culturel, qui ne remettait pas en cause l'unité de la République, était une période essentielle. C'est Mistral à la même période.
Antoine Compagnon avait intitulé sa communication « Le dieu de la Troisième République ». Pourquoi ça va jusque-là, cette admiration du temps ?
C'est le fait que c'est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu devient le dieu de la République. Mmh. D'abord, la place immense qu'il occupe à ce moment-là. Bon, le jeune Barrès se moque de lui, mais c'est déjà la génération suivante qui commence à émerger. Mais je crois qu'il faut toujours faire le rapport. Quand une œuvre a un immense succès, il faut faire le rapport entre l'aventure individuelle d'un auteur, avec ses démons intérieurs, ses contradictions, ses épreuves. Et lui, ça a été sa crise religieuse. Et la société dans laquelle il a vécu. l'individu Renan a exposé publiquement ce que probablement une bonne partie de la bourgeoisie française s'est posé comme question politique et religieuse entre 1840 et 1890.
Et si je peux revenir, Henri Laurens vient de dire « un homme qui nie l'existence de Dieu ». Il ne nie pas l'existence de Dieu. Il nie que Jésus soit Dieu et il nie que Jésus ait prétendu être Dieu. Mais il ne nie pas l'existence de Dieu. La dédicace à la mémoire d'Henriette de la vie de Jésus commence par « du sein de Dieu où tu reposes ». Il ne se permettrait pas de plaisanter avec la mémoire de sa sœur Henriette. Là encore, il y a une position qui est toujours compliquée, qui est hostile à l'Église, mais en même temps respectant ce qu'il y a de, d'une certaine façon, de plus rigide dans l'Église, considérant que Jésus met sur la voie du divin, enfin, etc. D'ailleurs, moi, je l'ai mal dit, il y a quelqu'un qui l'a très bien dit pendant... Enfin, ou dont j'ai été surpris et flatté de voir que finalement, nous étions assez proches dans notre analyse, c'est Jacques Bouvresse qui a fait une magnifique communication un peu sur ce thème.
Soyons clairs, l'ennemi mortel de Renan toute sa vie, c'était la théocratie.
Exactement, c'est la théocratie.
Et la République aussi voit en lui quelqu'un qui argumente pour conduire à la séparation de l'Église et de l'État, qui n'aura pas lieu de son vivant, mais dont il a encore, toute son œuvre pousse vers la séparation.
Oui, il y a, justement, là, je ne sais plus où c'est, moi, vous savez, je connais mal Renan, mais texte cité par Jacques Bouvresse, où il dit explicitement « la religion est du domaine du privé ». Et une formulation qui correspond exactement enfin, aux conceptions actuelles.
Donc il a été vraiment en phase avec son temps et son œuvre a eu une postérité jusqu'aujourd'hui.
Oui, mais avec des limites, cette phase en son temps, puisqu'au moment de sa mort, on a proposé de le mettre au Panthéon. On a rejeté, on a tenté deux fois de suite après, en dernière fois, au moment du cartel des gauches, si mes souvenirs sont bons, de la mettre au Panthéon, et à chaque fois ça a été rejeté, parce qu'à l'époque, la panthéonisation a été décidée par la Chambre des députés, et non pas par le président de la République, contrairement à aujourd'hui, où c'est une prérogative présidentielle. Donc, les tentatives successives de mettre Renan au Panthéon ont échoué, et elles échoueraient encore si nous avions la prétention de le demander.
Est-ce que son héritage est plus politique que scientifique ?
Peut-être.
Si vous voulez, il ne faut pas faire de faux procès. Les physiciens du 19e siècle croyaient en l'éther. Il a fallu Einstein pour démontrer que l'éther n'existait pas. La science de Renan est celle de son siècle. Elle ne vaut pas mieux que celle des physiciens du 19e siècle, si on fait une comparaison avec les sciences dites dures ou exactes.
Oui, elle vaut mieux. Il en reste probablement plus que des sciences dures du 19e siècle, parce que nos disciplines, tout de même, n'évoluent pas si vite. Il en reste quand même beaucoup seulement. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs on l'a bien vu à notre colloque, aujourd'hui, un sémitisant, un historien, etc., se réclamerait de Renan. Il peut emprunter à Renan, il peut réfléchir sur Renan, il ne se réclamerait pas de Renan.
Peut-être tandis, de sa morale scientifique.
Oui, tandis que dans certains domaines, justement sur la question d'une forme de la laïcité mesurée et respectueuse de la religion ou des religions, là, il est possible de se réclamer de Renan, ou en tout cas de renvoyer à Renan. C'est pour... Et il y a certainement des modes de pensée qui nous sont devenus spontanés, dans le domaine politique au sens très large, qui peuvent venir de Renan.
Et puis c'est un écrivain.
Et puis c'est un grand écrivain, un très grand écrivain.
Parce que bon, on dit, mais c'est d'abord, enfin, il reste de Renan des pages admirables, pas toutes, évidemment, parce que parfois il y a des passages qui sont très austères ou très techniques, mais c'est un grand écrivain.
L'ensemble des gens qui sont venus faire des communications là, pendant les deux jours du colloque ont semblé absolument captivés par sa correspondance, que ce soit avec Berthelot ou avec sa sœur.
Alors là, il faut mentionner que l'édition scientifique de sa correspondance est en cours. Et que je crois que le tome 4 ou le tome 5 de la correspondance générale de Renan, c'est-à-dire 1860, enfin le tournant des années 1860, va prochainement paraître. Jusqu'ici, nous n'avons que des éditions fautives, incomplètes, etc. Et la dernière grande œuvre renanienne, c'est cette correspondance générale qui est en cours de publication.
Pour vous-même, l'un et l'autre, Qu'est-ce que vous avez appris de Renan ?
Je suis le moins savant et le moins renanien des deux. Henri Laurence a acheté les œuvres complètes d'Ernest Renan quand il était tout petit et depuis, il n'a cessé de les lire. Pour moi, c'est assez différent. Ce que j'ai appris en relisant ou en lisant pour ce colloque, c'est justement que l'extrême respect que Renan avait pour ses maîtres, pour certains de ses maîtres prêtres, et son espèce de répulsion à l'égard de ce qu'il appelle les théologiens libéraux, ou la théologie tout juste bonne pour les laïcs, d'une sorte de compromission de l'Église avec ce qu'elle devrait être. Il veut que l'Église reste ce qu'elle est et qu'il la quitte parce qu'elle est ce qu'elle est. Mais il ne faut surtout pas qu'elle devienne autre chose. Et c'est ce qu'il fait apparaître, d'ailleurs il le dit, il dit qu'il se dispute avec ses amis à cet égard, ce qu'il fait apparaître extrêmement clérical, en fait, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors c'est quelque chose que je savais parce que c'est justement les souvenirs d'enfance et de jeunesse, j'avais lu ça dans ma jeunesse avec délectation, mais à la fois ce talent de conteur, ce mélange d'émotions retenues, d'ironie amusée, sans méchanceté, cette sensibilité au regard de son enfance bretonne, la façon dont il rassemble ses souvenirs, dont il les rend vivants, ce côté écrivain et mémorialiste que j'avais connu, que j'avais oublié et que j'ai retrouvé avec un immense plaisir. Et enfin, ce que j'ai retrouvé aussi, alors revenant d'une lecture plus récente mais tout de même ancienne, c'est combien La vie de Jésus est un livre passionnant et attachant parce que c'est un livre où il se met tout entier, enfin c'est la formule est banale, mais où il met toute sa science, mais en même temps toute son âme, au sens de tout le salut de son âme, comme il dit dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, je ne saurais être damné pour ce que j'ai cru. Eh bien, vraiment, il se collette avec cette vie de Jésus et on sent que pour lui, c'est tellement important et que cette foi en Jésus s'est transformée en une telle admiration dans ce personnage qu'il cherche à connaître, que au-delà des questions proprement scientifiques sur lesquelles je n'ai pas de compétences propres, c'est un livre qu'on lit avec passion et qui tire les larmes d'une certaine façon.
Henri Laurence,
on pourrait comparer Renan et le catholicisme à Raymond Aron et le marxisme. Et je crois que sa condamnation des formes libérales du catholicisme ressemble beaucoup à un Aron tenant contre les marxistes imaginaires, Althusser, Sartre,
peut-être.
Et d'autre part, bon, pour moi, évidemment, professionnellement, cela compte. L'orientalisme est un objet d'histoire, un objet d'étude historique et un enjeu politique. Et Renan est le plus grand orientaliste du 19e siècle, ça s'est admis. Et évidemment, il va même jusqu'à être le prototype parfait de l'orientalisme tel qu'il sera condamné par Edward Said. Alors, lire Renan, ça s'impose évidemment, mais aussi le mettre par rapport à d'autres, comme Louis Massignon ou Alfred Le Châtelier, par exemple, qui lui succède presque immédiatement. Et il y a 20 ans de distance entre la mort de Renan, il y a 10 ans entre la mort de Renan et l'arrivée d'Alfred Le Châtelier au Collège de France. C'est un autre orientalisme qui naît, qui est celui des sciences sociales. Et autant la philologie était au centre du 19e siècle, autant la sociologie va devenir la discipline centrale du 20e.
Puisque Henri Laurence ose une comparaison Renan-Aron, enfin sur la question du marxisme, j'en ose une, mais c'est dans la façon dont Renan articule donc le monde sémitique, le monde indo-européen, les Hébreux, les Grecs. Il y a quelque chose qui, en le relisant, annonçait à mon esprit Simone Veil. Et cette façon de détacher d'une certaine façon le christianisme du monde sémitique pour le rapprocher du monde grec, en lisant Renan, je me disais, mais est-ce que ce n'est pas là que Simone Veil aurait trouvé ça ? Bon, est-ce que j'en dis ?
Vous savez, des gens comme Jean Bay analysent par exemple toute la philosophie islamique selon deux tendances, la tendance helléniste et la tendance sémitique.
Oui.
Et on voit que là, les grilles d'analyse restent, et puis d'autre part, il y a encore un objet historique qui n'a pas vraiment été étudié, c'est le sémitisme qui continue encore à éventuellement à faire des dégâts en plein XXIe siècle. Par exemple, aujourd'hui, les affaires du Rwanda, c'est de savoir si une partie des Rwandais sont d'origine sémitique ou non, parce que les pères belges qui ont colonisé le Rwanda ont appliqué les théories du sémitisme renanien aux populations des Grands Lacs africains. Et ça a causé des génocides. Il y a un autre problème qui n'a été que brièvement évoqué, puisque ce n'était pas le sujet, c'est que Renan a rendu d'usage courant un vocabulaire qui était purement scientifique. Quand Renan commence à utiliser les termes d'Arien ou des Sémites, il y a quelques dizaines de savants que ça intéresse dans le monde européen. Mais par le succès même de l'écriture de Renan, par les best-sellers qu'il publie, les mots Arien et Sémites deviennent des mots d'usage courant. Lui-même, d'ailleurs, s'en inquiète. Dès les années 1880, il commence à multiplier les signaux d'alerte sur l'usage de sémites ou d'arien dans le langage courant des gens.
On va peut-être conclure, à lui qui était à l'Académie française, justement, de travailler sur le dictionnaire de la langue française. Je ne sais pas, il aurait fallu aller faire un saut aux archives et voir... S'il y a eu des débats sur les mots quand il y était, je ne sais pas.
Il faut rappeler, par exemple, qu'au XXe siècle, Aimé Césaire a fait de Renan le prédécesseur du nazisme dans le discours sur le colonialisme en 1950, mais qu'il lui rend un hommage dans Une tempête, puisque Une tempête de Césaire est plus la reprise du Caliban de Renan que de la pièce de Shakespeare.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus évoquer Ernest Renan, son œuvre, et de nous avoir aiguillés sur son œuvre immense qui consistait à donner un inventaire un peu raisonné des civilisations avec la vision d'un homme du 19e siècle. Et apparemment, son héritage est immense. Votre admiration est sans borne pour son œuvre, pour son écriture et pour l'homme.
Sans borne, elle est grande.
Elle est grande. Elle est très, très grande. Vous venez d'entendre Michel Zinc et Henri Laurence évoquer la figure et l'œuvre d'Ernest Renan, titulaire de la chaire d'hébreu au Collège de France en 1862, puis de 1870 jusqu'à sa mort en 1892. Ernest Renan fut membre de l'Institut. Il a été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1856, puis à l'Académie française en 1878. Michel Zinc est titulaire de la chaire de littérature médiévale au Collège de France. Il est secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Parmi ses derniers livres, citons « Livres anciens »,« Lectures vivantes » et puis « Seuls les enfants savent lire ». Henri Laurence est, lui, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Il a été l'organisateur du colloque de rentrée du Collège de France pour l'année 2012. Il est l'auteur d'ouvrages de référence, en particulier « La question de Palestine » en 4 volumes chez Fayard. Et parmi ses derniers livres, citons « Alphonse de Lamartine, La question d'Orient, discours et articles politiques, 1834-1861, chez André Versailles éditeur, et puis « Français et arabe depuis 2 siècles, la chose franco-arabe », suivi de « Les rapports entre les métropoles et les systèmes coloniaux ». C'est chez Talendier en 2012.